Alors, la première chose peut-être à dire, c'est que dans les deux derniers siècles, l'épiscopat de Mgr Brincard a été le plus long dans le diocèse. Pourquoi les deux derniers siècles? Parce que le diocèse, pendant la période révolutionnaire, avait été supprimé et qu'il a été restauré, si j'ose dire, en 1823. Donc l'épiscopat de Mgr Brincard, de 26 ans, c'est le plus long, devant celui de Mgr Dosolme, qui était son prédécesseur, voilà, qui lui est resté 18 ans. On a l'habitude en Haute-Loire de conserver. Comme on l'a dit hier, Mgr Brincard est arrivé avec son expérience d'enseignant et de prédicateur de retraite auprès de, bien sûr, enseignant auprès dans la congrégation des chanoines réguliers de Champagne et de prédicateur dans des communautés religieuses et aussi dans différents groupes spirituels. Donc, à partir de là, il n'est pas surprenant qu'un trait de son ministère ait été l'importance qu'il attachait à la formation doctrinale et spirituelle. Il le faisait évidemment dans la ligne la suivant très étroitement la ligne du Concile Vatican II, et aussi on pourrait dire la fidélité au magistère. Hein. Il a la plupart de son épiscopat donc a été de l'époque du pape Jean-Paul II, et puis ultimement de Benoît XVI. Alors je vais commencer par évoquer ce point-là sur la formation. Je vais commencer plutôt par évoquer son approche pastorale et à partir de ce que lui-même a pu exprimer en arrivant dans le diocèse. Et puis ensuite, eh bien, je parlerai de l'importance de la formation doctrinale et spirituelle pour lui. Et une question qui a occupé le diocèse pendant tout son épiscopat, le remodelage du tissu paroissial. Et puis enfin, eh bien, j'évoquerai le sanctuaire du Puy, mais sans revenir sur ce qui a déjà été exprimé. Donc, son approche pastorale. Au jour anniversaire de son ordination épiscopale, Mgr Brincard adressait une lettre aux prêtres. Et au mois de décembre suivant, le début décembre suivant, une deuxième lettre aux laïcs. Alors, je crois que c'est intéressant de lire ces textes. Aux prêtres, il écrivait « Pour découvrir toute l'importance de notre ministère dans la vie de l'Église, il importe de le fonder sur notre identité sacerdotale et de le définir à partir d'elle. N'oublions pas que nous sommes, par le moyen des sacrements, et spécialement de l'Eucharistie, les serviteurs de la rédemption. » C'était une expression qu'il reprenait du pape Jean-Paul II. « Telle est la première mission du prêtre dans la mission évangélisatrice de l'Église, porteuse du salut pour tous les hommes. » Alors, il ajoutait, voir prioritairement l'expression de cette mission, dans le ministère pour, je cite, « la vie interne des communautés chrétiennes ». C'est en effet grâce à des paroisses vivantes, généreuses et responsables, que peut vivre l'Église de Jésus-Christ. Dans ma pensée, je regroupe ici tous les prêtres qui exercent leur ministère en paroisse, mais aussi tous ceux qui sont au service des jeunes et des enfants, dans les aumôneries scolaires ou dans l'enseignement catholique. En direction des laïcs, il se proposait, là aussi ça rejoint ce qu'on a entendu hier, d'apprendre à mieux connaître le difficile apostolat des aumôniers d'action catholique dans notre monde marqué par la sécularisation. Cet apostolat, disait-il, consiste à confronter l'évangile avec la vie pour faire entrer l'évangile dans la vie. Et il précisait, à propos de cette contribution des fidèles laïcs à l'évangélisation, que c'était au titre de leur sacerdoce baptismal. En ajoutant, en citant encore le pape Jean-Paul II, « Certes, le dialogue apostolique suppose l'effort de regarder et d'analyser les réalités vécues par nos contemporains. Ce dialogue invite à reconnaître des pierres d'attente et même les signes de l'Esprit-Saint au travail dans le cœur des personnes, mais cela suppose précisément le regard d'une foi approfondie. » Alors, à partir de là, il me semble intéressant de souligner finalement ces deux approches pastorales. D'abord, la relation entre prêtre et laïc. Chaque année, à la messe chrismale, c'était pour lui l'occasion privilégiée de développer, surtout à partir de la constitution du concile Lumen Gentium, et aussi de l'exhortation Christi Fideles, un enseignement sur trois éléments qui lui paraissaient essentiels et constamment à rappeler. Le premier aspect, c'est la nature sacramentelle et la mission du sacerdoce ministériel comme œuvre de libération, de réconciliation et de communion. Deuxième accent, la complémentarité des missions respectives du sacerdoce ministériel et du sacerdoce commun des fidèles. Enfin, les deux champs d'action de l'apostolat des laïcs. D'une part, les tâches séculières dans la société, sur laquelle il ne s'étendait pas. Et puis d'autre part, le dévouement dans les tâches de l'Église, qui pouvait être confié, il ne manquait pas de le souligner, au titre de leur sacerdoce baptismal, dans un esprit de co-responsabilité. On ne parlait pas encore tout à fait de synodalité à l'époque. Voilà. Constamment, il y revenait, chaque année. Alors, qu'il s'agisse du ministère des prêtres ou de la participation des laïcs à la vie interne des communautés paroissiales, ou de leurs engagements dans la société, ils rappelaient constamment la discipline de l'Église. C'était au risque de paraître prêter moins d'attention aux diverses formes dans lesquelles l'organisation de l'Église et le témoignage de la vie chrétienne pouvaient s'exprimer concrètement. Et pourtant, en même temps, il ne cessait de reconnaître le caractère ardu, je crois qu'il faut souligner ce mot, ardu, de ce témoignage chrétien dans un monde marqué par la sécularisation et par la perte ou le rejet des repères éthiques traditionnels. Et ça, c'était un souci aussi qu'il rappelait constamment, j'y reviendrai tout à l'heure. Deuxième insistance, les questions touchant à la famille, dans la société et dans l'Église. Dans le regard qu'il portait sur la société, il plaçait au centre de ses préoccupations la famille comme cellule fondamentale de la société et primordiale dans la vie de l'Église. Bien sûr, il constatait à chaque occasion, que la famille était l'objet de tragiques dislocations dans notre pays, et même plus menacée que jamais dans ses fondements. D'année en année, lors des réceptions qu'il donnait à l'évêché, dans les années 90, aux personnalités publiques de la ville, il revenait constamment dans de longues interventions sur la crise morale de notre époque. et en particulier, évidemment, sur les évolutions législatives touchant à l'avortement ou à la fragilisation de l'institution familiale. Et chaque fois, c'était pour présenter le message de l'Église comme un message d'espérance. Peut-être qu'il y avait aussi, derrière ce mot, le sentiment de la résistance. Et vers la fin de son ministère, c'était en 2013, il délivrait encore un long message, le 15 août, sur humanisme, foi chrétienne et conscience morale. Et bien sûr, en ce qui concerne le diocèse, il ne cessait de promouvoir la pastorale familiale en appelant à fonder la transmission de la foi et l'éducation de la vie chrétienne dans la vie sacramentelle. Ainsi, parmi les tout premiers projets qu'il présentait au Conseil presbytéral, qui évoquait beaucoup d'autres préoccupations, il retenait en priorité le lancement sur 2-3 ans d'un plan de travail sur la préparation au sacrement de baptême et de mariage. Ça a été la première chose qu'il a retenue comme objet du travail, de la réflexion du Conseil presbytéral. Alors, c'est un fait, constatait-il, que la préparation au sacrement de baptême et de mariage est une occasion favorable pour les prêtres de nouer des relations avec les fidèles. Mais à partir de là, pour aller plus profond, il soulignait que l'Église, en sa constitution et toute l'existence chrétienne, est sacramentelle. Ce qui, soulignait-il, la distingue de toute autre institution. Encore en 1993, il revenait sur la question de l'éducation, depuis l'éveil de la foi de tout petit jusqu'à la catéchèse des plus grands à partir de la confirmation. En 1995, encore, il revenait sur le sujet en disant que cette préparation est une entreprise missionnaire à laquelle les laïcs doivent s'associer. Ils y avaient un peu commencé, mais au cours des années, cela s'est développé. Au bout du compte, encore en 2001, il publiait des orientations sur la pastorale de la confirmation. Évidemment, il ne manquait pas de souligner que comment le contexte familial ou ecclésial permet à cet enseignement sur les sacrements de porter ses fruits. Et bien sûr, tout au long de son ministère, Mgr Brincard portait une attention soutenue à la vie des établissements catholiques, n'est-ce pas, Jean-Paul? Voilà. Il rappelait, bien sûr, là aussi comme une évidence, mais qui doit être défendue, le caractère propre de l'enseignement catholique dans l'éducation de la foi. Signalant au passage, pas comme un sous-entendu, mais comme peut-être une évidence moins apparente, que cette tâche implique l'engagement des enseignants et aussi celui des parents. Alors, j'en viens maintenant au deuxième point fort, me semble-t-il, de son ministère, c'est tout ce qu'il a promu pour le développement de la formation doctrinale et spirituelle, aussi bien des prêtres que des laïcs. Jusqu'alors, le service diocésain de la formation fonctionnait avec des interventions ponctuelles ou occasionnelles. Mais tout de suite, lui a signalé qu'il attendait de ce service un exposé complet et structuré de la foi catholique, avec une initiation à la lecture de l'Ancien et du Nouveau Testament, et une plus juste connaissance de l'Église et de sa mission aujourd'hui. Alors, pour faciliter cet objectif, dès octobre 1991, donc c'était le deuxième anniversaire de sa présence, il lançait l'idée d'une profonde restructuration de la maison de la Providence. Jusqu'alors, elle était occupée par quelques logements de prêtres, des rencontres des mouvements d'action catholique, accessoirement l'accueil de petits groupes de pèlerins dans des conditions qui étaient plus que sommaires. Les travaux pour créer la maison telle qu'on la connaît aujourd'hui, eh bien, ont démarré en juillet 1999. Et ils ont duré donc jusqu'à l'ouverture à la rentrée 2001, donc 2 ans de travaux. Et cette ouverture a permis la réalisation de quelque chose de tout à fait important au long des années qui ont suivi. C'est la création de la formation d'animatrices laïques en pastorale qui a débuté dès octobre 2001, donc dès l'ouverture de cette maison. Alors, dans l'Église ailleurs, on parle de laïque en mission, tout simplement. Nous, ici en Haute-Loire, comme j'ai dit, on conserve et les mots et les choses. Et on a continué, jusqu'à aujourd'hui encore, de parler d'animatrice ou d'animateur, c'est moins rare, c'est plus rare, laïque en pastoral. Je crois que la création de cette formation a été un événement majeur dans le cours de l'histoire du diocèse. Hein, parce que, bon, dans tout le propos que je vais essayer de tenir, je crois que parler du ministère de l'évêque, surtout quand il a été si long, c'est parler d'une tranche d'histoire du diocèse, et qu'on ne peut pas séparer l'évêque de son peuple. Oui, c'était une création, la formation des animatrices laïques en pastorale. Ça a été aussi une formation originale dans l'Église de France. Dans un petit diocèse comme le nôtre, on n'a pas de faculté, il n'y avait plus le séminaire, et donc il fallait trouver comment mettre sur pied une formation un peu solide pour des personnes qui seraient engagées dans des responsabilités pastorales. Alors, pour être adapté à la fois aux capacités et aux besoins, je crois qu'il faut signaler que cette formation avait ceci d'original, qu'elle a été lancée immédiatement comme une formation par alternance. Alors, on doit ça, je crois, largement au père Louis Trincal, qui, après avoir été enseignant, directeur d'établissement secondaire et directeur de l'école technique de Monistrol-sur-Loire, avait fait l'expérience de ce que la formation par alternance a d'intéressant et d'efficace. Cette formation, qui durait 3 ans, elle consistait à chaque mois, deux, trois jours d'exposé, voilà. Et puis, le reste du temps, dans une activité paroissiale. Et puis avec au bout, et bien sûr, et bien des contrôles de connaissances. Alors, là aussi, Mgr Brincard a eu une intervention, non pas tellement dans l'organisation, c'était pas, je crois, ce qui occupait son esprit. Par contre, c'était l'objectif qui lui importait. Et donc, il a obtenu le soutien de la faculté de théologie de Lyon, non seulement sur l'aspect administratif pour faire reconnaître cette formation comme une vraie formation professionnelle, mais bien sûr aussi et surtout pour s'assurer de la solidité de cet enseignement et donc un accompagnement pédagogique apporté aux contributeurs qui pouvaient être trouvés dans le diocèse. En même temps, bien sûr, a été mise en place une commission diocésaine de discernement et d'accompagnement des personnes qui se trouvaient engagées dans des contrats de travail reposant sur une lettre de mission de l'évêque, mais des contrats de travail. Donc, à l'époque, on insistait beaucoup sur le fait qu'il fallait que ces contrats de travail ne portent pas sur des durées trop longues. Et le schéma proposé était un contrat de 3 ans renouvelable une fois. Les choses se sont ensuite un petit peu plus élargies. Alors, simplement à propos de cette formation et de ce que les animatrices en pastorale ont apporté dans le vue du diocèse, j'y reviendrai tout à l'heure, c'est le seul sujet sur lequel j'ai entendu Mgr Brincard exprimer sa fierté devant ses confrères évêques. Ça, je dois dire que ça m'avait assez frappé. Voilà. La première vague de personnes donc engagées sur la base de cette formation, elle a eu lieu en 2010. Il y avait 18 personnes. L'année suivante, l'effectif doublait. Et puis, elles se sont trouvées au total, je crois, plus d'une cinquantaine au long des années suivantes à être formées. Pas 50 employés en même temps, mais 50 au total. Et aujourd'hui, on doit être pas loin de 100, parce que cette formation, bien sûr, garde son importance et elle continue. Après cette évocation de la formation, je crois qu'il est important d'évoquer le remodelage du tissu paroissial. Parce que c'est certainement, dans la vie du diocèse, un des aspects les plus perceptibles dans les évolutions que notre Église a connues. Je crois que ça a été vécu, et par Mgr Brincard et par le diocèse, comme un long chemin sur lequel on a avancé pas à pas. Alors, pour donner la mesure un petit peu de la question, il faut se rappeler que de 1989 à 2014, l'effectif des prêtres en activité a été réduit de plus de moitié. Il est passé de 247 en 1989 à 112 en 2014. Parmi les 112 en question, Mgr Brincard en a ordonné 15. Et aujourd'hui, nous sommes 80. dont une dizaine de prêtres fidei donum venus en particulier de Madagascar. J'ajoute comme incidente, parce que ce n'est pas tout à fait sans importance, que Mgr Brincard a ordonné 9 diacres sur les 19 que notre diocèse compte aujourd'hui. Toujours est-il que une des conséquences les plus, je dirais, brutales de cette diminution du nombre des prêtres a été que, précisément, les prêtres ont été effectifs, qui étaient auparavant employés principalement dans l'animation des mouvements et des services diocésains, cette proportion a diminué considérablement, au point que la plupart ont été appelés à avoir à la fois un ministère paroissial et la responsabilité des mouvements ou des services qu'ils avaient. Alors, sur ce sujet, Mgr Brincard a été immédiatement très sensible au retentissement que cette diminution du nombre des prêtres pouvait avoir sur les communautés paroissiales, et particulièrement les plus petites. Et pendant au moins une dizaine d'années, eh bien, cette question a été, on pourrait dire, pas exclusive, mais prioritaire dans les réflexions qui pouvaient être conduites dans le cadre du Conseil presbytéral. Là aussi, c'est important de redire les chiffres. En 1989, les deux tiers des 270 paroisses du diocèse étaient, comme on disait alors, desservies par les prêtres des paroisses voisines. Je crois que c'est intéressant, ce vocabulaire. Voilà, les toutes petites paroisses, il y en avait certaines qui étaient microscopiques, elles étaient desservies par des paroisses voisines. Par rapport à ça, Mgr Brincard a toujours plaidé pour que on prenne le temps d'une réflexion prudente. Mais, bon, évidemment, il appelait bientôt à un changement de mentalité, en insistant, il ne faut pas brusquer les personnes. Donc, sa première proposition a été de développer entre les paroisses voisines des relations de collaboration. Alors, à partir des équipes de liturgie, de catéchèse, les personnes qui s'occupaient de la pastorale de la santé, les préparations de baptême, de mariage, progressivement, toutes ces choses, dans tous ces points, il fallait, entreprendre des collaborations et pas simplement une desserte de la communauté par les prêtres. Là aussi, Mgr Brincard laissait toujours la liberté aux prêtres de décider des applications pratiques. D'ailleurs, lui-même se déclarait peu enclin à donner des directives précises sur ce point. Par contre, il se préoccupait constamment que, en tout cela, on s'applique à donner le sens de l'Église et de ce que sont les paroisses, des cellules vivantes d'Église appelées à vivre en communion les unes avec les autres. C'est une citation. Et puis, bientôt, si j'ose dire, dans les années suivantes, l'étape suivante, ça a été de dire, il faut aller vers une création de communautés de paroisses. Toujours la paroisse restant l'unité primordiale. Et bien sûr, sans précipitation, parce que, effectivement, surtout les zones les plus rurales du diocèse, eh bien, cela bousculait beaucoup les habitudes. Et puis, à mesure que se constituaient des regroupements, bien sûr, la tâche des prêtres s'étendait sur un territoire plus vaste. Et c'est à partir de là que, eh bien, il s'est agi de réfléchir à une participation plus organisée, plus étroite des laïcs à la vie de l'Église. Donc j'ai dit tout à l'heure ce que la formation des ALP, des animatrices laïques en pastorale, avait apporté au diocèse pour dynamiser la formation. Je crois qu'il faut signaler à ce sujet l'importance de la contribution à la vie paroissiale des animatrices en pastorale, notamment dans le développement du contact avec les familles et auprès des jeunes. La plupart, d'ailleurs, ont été investis sur le terrain paroissial. Mais il y en a eu aussi dans l'établissement scolaire et sur la pastorale de la santé. Pour la catéchèse et la préparation au sacrement de baptême et de confirmation. En plus, les animatrices en pastoral ont été un grand soutien aux équipes de bénévoles, en collaborant avec les prêtres, en les soulageant parfois de certaines tâches, et même en allant jusqu'à exercer elles-mêmes une vraie responsabilité dans l'exercice des activités sur lesquelles elles étaient engagées. C'est au lendemain du jubilé de l'an 2000 et jusqu'en 2005 que plusieurs sessions du Conseil presbytéral s'attachèrent enfin à dessiner la figure et la carte des nouvelles paroisses. En fait, dans le diocèse, on n'a jamais parlé de nouvelles paroisses. On parle d'ensembles paroissiaux, encore aujourd'hui. Alors, il y a cela une raison, c'est que pour supprimer des paroisses et pour établir de nouvelles paroisses, il y a des procédures canoniques un peu complexes. Mais c'était surtout, je crois, l'idée qu'il fallait y aller progressivement et que... Eh bien, les choses pouvaient se faire en ayant un vocabulaire moins strict, peut-être, mais en ayant quand même toujours cet objectif d'une mise en commun des activités, des ressources aussi, parce que la question des finances, ça intéresse aussi les paroisses. Voilà. C'est en janvier 2004 que Mgr Brincard soulignait encore que le réaménagement en question devait se faire en tenant compte d'une conception théologique de la paroisse, entendue au sens de communauté eucharistique et de communauté de baptisés, prenant une part active à la vie et à la mission de l'Église. Et il exprimait cette idée, un ensemble paroissial est appelé à être une communion de communautés. Il n'allait pas jusqu'à dire une communauté. Bon, toujours est-il qu'il s'est constitué, donc à partir de 270 paroisses du diocèse, canoniquement, elles existent toujours, même si elles se sont un petit peu éteintes dans la réalité concrète des choses. Donc, avec les 270 paroisses, on est arrivé à 24 ensembles paroissiaux. Alors, ces ensembles ne se sont pas constitués d'un seul coup. Ça a été au rythme de chacun. Ça a commencé surtout dans les paroisses, dans les quartiers les plus ruraux du diocèse. On peut le comprendre. Monseigneur Brincard avait bien remarqué que parfois, les paroisses les plus importantes, c'est le cas en particulier dans les Saint-Gelais, elles n'ont pas tellement envie de se mettre en commun, parce qu'elles pensent avoir suffisamment en elles-mêmes les ressources, ce qui n'est pas le cas, évidemment, des petits villages. D'ailleurs, c'est intéressant de voir que les mêmes questions se posent dans le regroupement des communes. Voilà, c'était le deuxième point. Le troisième, j'y viens, parce que hier, effectivement, on a vu à quel point c'était un objectif important de Mgr Brincard, c'est l'ambition de donner au pèlerinage du Puy un nouveau rayonnement. Il précisait, à l'échelle nationale, comme ce qu'il a pu représenter dans les siècles passés. Alors, c'est certainement le domaine sur lequel son implication a été la plus forte. Pour prendre les choses dans la chronologie, lors de son premier pèlerinage diocésain à Lourdes, en 1990, Mgr Brincard a fait la rencontre de Jean-Marie Lévrier, qui était alors en fin de mandat dans la direction de la cité Saint-Pierre, donc de Lourdes. Et dans la foulée de cette rencontre, il ne tardait pas à l'engager à venir dans le diocèse comme directeur du service diocésain des pèlerinages, premier laïc dans cette fonction, et en disant que ce service, qui jusqu'alors était orienté principalement sur l'organisation de pèlerinages pour les diocésains dans différents lieux, Lourdes surtout, bien sûr, mais d'autres éventuellement, il fallait avoir l'orientation d'une direction des pèlerinages qui soit accueillante, attractive pour les pèlerins qui pouvaient venir d'ailleurs. Et donc, à partir de là, cette rencontre a pu naître l'association Saint-François, pour laquelle Mgr Brincard a mobilisé aussi de façon très, très forte la communauté, la congrégation des Sœurs de Saint-François d'Assise de Montpellier. Et ça a donné la création d'un gîte pour les marcheurs pèlerins de Saint-Jacques, qui avait ceci d'original, c'est que une partie de l'accueil était réalisée par des personnes accueillies par la communauté de Saint-François dans un lieu de vie. C'était pour des personnes qui se trouvaient en rupture de relations sociales, parfois en errance. Il y avait même des sorties de prison. Et c'était assez frappant pour les pèlerins qui débarquaient là de découvrir qu'ils ne pensaient pas rencontrer un hôtel ayant cette qualité. Voilà, c'est un lieu de rencontre donc tout à fait important. Aujourd'hui, cette réalisation, c'est devenu un chantier d'insertion auquel la congrégation de Saint-François contribue encore largement, notamment lorsqu'il s'agit de faire des aménagements du immobilier. Mais la présence des sœurs et de la communauté donc en est un élément tout à fait essentiel et important. À propos de la cathédrale et du pèlerinage, je crois qu'il faut aussi s'arrêter. Alors, Hier, on s'est arrêté brillamment sur le Camino, mais sur une autre réalisation, c'est celle de la maîtrise de la cathédrale. Dans la foulée de la rénovation du chantier de la cathédrale, eh bien, voilà, Mgr Brincard a lancé l'idée qu'il fallait reconstituer la maîtrise. Ça a été, notamment pour les prêtres, une grande surprise. Et même plutôt qu'une surprise, quelque chose qui avait un aspect contrariant, parce qu'ils étaient mobilisés, eux, sur d'autres terrains, sur lesquels ils rencontraient quand même pas mal de difficultés dans la rencontre avec les jeunes. Mais Mgr Brincard a profité de la découverte, à l'occasion des travaux de la cathédrale, du fond de partition, l'important fond de partition du XVIIIe siècle, qui a été à ce moment-là découvert. Et il a tenu à ce que ce fond reste dans le diocèse, mais que soit organisé et développé une étude de ces documents pour effectivement contribuer à une certaine découverte un approfondissement même de la culture musicale. Toujours est-il que Mgr Brincard a, on pourrait dire presque imposé dans l'esprit d'un certain nombre de prêtres, notamment l'importance de cette création. Bien sûr, la maîtrise, elle a participé à l'animation de la cathédrale, mais elle a aussi, elle, je crois, soutenu d'abord localement sur le Puy un progrès dans la culture musicale et l'expression liturgique de la musique, du chant choral, mais aussi la maîtrise a pu apporter ses contributions dans les paroisses du diocèse, et puis bien au-delà, lors de concerts organisés, pas seulement en France d'ailleurs, auxquels elle a pu participer, sous la conduite donc d'Emmanuel Maga. Là aussi, je crois, à propos de ces rencontres de Mgr Brincard, je crois que c'est important de souligner comment il a su mobiliser de façon hardie des compétences qui venaient de l'extérieur pour développer éventuellement ce qui était possible dans le diocèse. Alors, un dernier point concernant le pèlerinage au Puy, parce qu'il ne s'occupait pas simplement de faire venir des gens au Puy, du moins de l'accueil de ceux qui venaient au Puy pour partir ailleurs, à Saint-Jacques, mais il s'intéressait à ce que le pèlerinage lui-même du Puy trouve son rayonnement. Alors il profitait de toutes les occasions. Par exemple, en 2000, pour le jubilé de l'Église universelle, il s'est appliqué à ce que le 15 août soit reconnu au Puy par l'Assemblée des évêques comme l'occasion d'un pèlerinage national des familles. Bon, ça a permis d'accueillir, je crois, quelques 8000 personnes, et ça a mobilisé un millier de bénévoles pour préparer ces 3 jours qui étaient proposés pour le 15 août. Même pour le 150e anniversaire de l'érection de la statue de Notre-Dame du Puy, il a profité de cette occasion pour donner au 15 août une ampleur un peu exceptionnelle. Et là, il y a une vingtaine d'évêques français qui ont participé à ce rassemblement. Un mot juste pour dire l'importance qu'il attachait à inviter au 15 août des cardinaux ou des évêques, archevêques, venant quasiment du monde entier au total. Je crois que tous les continents ont pu se retrouver ici au Puy à travers les évêques. Alors, pour conclure, il me semble qu'il y a deux traits particuliers de la personnalité de Mgr Brincard. Le premier, c'est l'importance qu'il attachait aux relations personnelles, non seulement pour solliciter des contributions ou des soutiens, mais que ce soit dans les petites paroisses, auprès des prêtres, dans les communautés religieuses, dans les mouvements à l'occasion des temps forts qui pouvaient se présenter, dans les familles, pour les personnes qu'il recevait personnellement à l'évêché, la rencontre personnelle était quelque chose d'essentiel. À un point tel que, lors de son décès, dans les témoignages qui ont pu être donnés, c'était le point sur lequel on a entendu le plus de choses. Deuxième trait, l'espérance. Je crois que c'était un leitmotiv de Mgr Brincard en toute occasion et sur tous les sujets. Soit lorsqu'il s'agissait d'envisager des choses qui pouvaient faire progresser un peu la situation ou l'organisation, soit lorsque il était fait état de situations difficiles, l'espérance. L'espérance, ça revenait dans toute occasion, dans ses propos. C'est à partir de 2010 que on lui a entendu prononcer une formule en avant dans l'espérance. C'était devenu là aussi presque un refrain pour marquer les interventions sur lesquelles il se prononçait. Et en 2013, dans une interview à L'Éveil, il déclarait: je suis de plus en plus un homme d'espérance. Il se trouve que c'était le début des signes avant-coureurs de la maladie qui devait l'emporter. Et cette espérance, dans les derniers temps, elle s'exprimait à travers une autre expression, jusqu'au bout. Hein, dans sa dernière année, il ne manquait pas de sollicitations de la part de ses confrères évêques pour l'amener à renoncer à sa charge. Il avait tous les motifs pour cela. Et il a toujours résisté, il s'y est toujours refusé. Et je me souviens que 3 jours avant son décès, alors qu'à l'hôpital, on ne pouvait quasiment plus entendre quand il parlait, il abordait les questions qui lui préoccupaient dans la vie du diocèse, 3 jours avant son décès. Mais il fallait prêter l'oreille pour entendre. Mais c'était clair. Voilà, l'espérance jusqu'au bout.